Chapitre 58. Jouna et Greta se retrouvent devant un commissariat du quartier de Stockholm. Ils doivent rencontrer un homme qui est venu signaler un meurtre dans un salon de massage à Tensta. L'homme est assisté d'une avocate et souhaite simplement parler à quelqu'un qui a le pouvoir de décider de sa protection personnelle. « Tu devrais retirer ça ?» dit Greta en pointant du doigt le vernis écaillé sur les ongles de Jouna. « Je sais, je vais prendre rendez-vous. » répond-il avant de frapper à la porte de la salle d'interrogatoire. Un homme d'âge mûr, au crâne chauve et à la barbe fournie, est assis derrière la table, les mains sur les genoux. Sa représentante est une femme aux cheveux blonds mi-longs, avec une trace de rouge à lèvres sur l'une de ses dents de devant. Elle semble avoir une trentaine d'années, porte une jupe gris foncé, une veste de tailleur et un chemisier blanc. Elle se tient le dos bien droit sur le bord de la chaise et attend qu'ils entrent et ferment la porte pour se lever et leur serrer la main. « Mon client veut bénéficier de la protection des témoins », explique-t-elle aussitôt. « Absolument, s'il y a des raisons à ça, ce que l'unité de sécurité personnelle va examiner », répond Greta avec un sourire. « Mais toutes les décisions de ce type sont prises indépendamment de la nature du témoignage. C'est accordé uniquement en cas de stricte nécessité. » « Alors, je ne parlerai pas », déclare l'homme. « Pouvez-vous expliquer à votre client ce que l'obligation de témoigner signifie ?» demande Greta à l'avocate. « Passons cette question », dit Jouna en s'asseyant à côté de l'homme. « J'ai besoin de réponses tout de suite. » Quel est le nom du salon où vous fréquentez des prostituées ?
Mon client nie avoir fréquenté des prostituées, s'empresse de répliquer l'avocate.
Iemoja, murmure l'homme.
Il était là pour se faire masser en raison de problèmes de dos, explique l'avocate.
Je venais d'entrer dans la salle d'attente lorsqu'une psychopathe m'a menacé avec un gros pistolet et a prétendu qu'elle allait me tuer comme elle avait tué le client précédent. Elle a dit qu'elle savait où j'habitais.
« Je comprends que ce soit effrayant, » dit Jouna.
« Qu'est-ce que je dois faire ? Il s'agit d'une menace de mort explicite et la police doit me protéger. »«
Pouvez-vous décrire la femme armée ?»«
Blonde, en colère. »
Jouna trouve une photo de Saga sur son portable et la montre à l'homme.
« Vous l'avez déjà attrapée ? »
demande-t-il, étonné.
Elle a dit qu'elle avait tué un homme.
Oui.
Qu'elle lui avait tiré dessus.
Je ne m'en souviens pas.
Mais elle a dit qu'elle avait tué un homme dans le salon et elle menaçait de vous tuer, c'est ça ?
Poursuit Jouna.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'elle vous tuerait ?
Je n'en sais rien.
Vous croyez quoi ?
Vous n'êtes pas obligé de répondre,
lui rappelle l'avocate.
Avez-vous vu une autre personne dans le salon ?
Intervient Greta.
Non.
Et à l'extérieur du salon?
Non.
Avez-vous remarqué autre chose de spécial?
Demande Jouna.
Je crois pas.
Vous n'avez pas vu la mare de sang et le balai devant la porte?
Quoi?
C'est à ça que ressemblent les salons de massage qui vous aident à soulager votre dos?
Continue Jouna en regardant l'homme droit dans les yeux.
« Mon client ne répondra à aucune autre question »,
conclut l'avocate.
« Informez-le qu'il sera poursuivi pour avoir monnayé des services sexuels »,
dit Greta.
Les rayons de soleil filtrés par les rideaux en dentelle tombent sur le tapis en cachemire et le canapé bordeaux. Un parfum de gingembre et de cardamome s'échappe du samovar posé sur la table. Les restes de Francesca Beckmann ont été retrouvés hier par un groupe de scouts à Santorpete. Le paquet se trouvait au milieu des vestiges envahis par la végétation d'un orphelinat catholique qui appartenait à l'église de Westerlofstadt au XIVe siècle. Suite au récent meurtre et à cette découverte, Manvir a organisé une réunion chez lui à Lidingö. Il a expliqué à Jouna et Greta qu'il devait chercher sur Riddarvägen une villa semblable à deux boîtes à chaussures jaunes superposées. Jouna pose des tasses et des assiettes à gâteau sur la table basse lorsqu'une petite fille en robe bleu marine et aux cheveux tressés fait irruption. Elle a environ 6 ans et ne ressemble pas à Manvir, à l'exception de ses yeux et de ses pommettes.
« Bonjour. »
La salue Juna. Elle s'approche de lui et l'observe avec curiosité. Elle tient un petit violon dans la main gauche. Un morceau de mousse remplace la mentonnière et des autocollants marquent les trois positions du cou.
« Pourquoi t'as des taches roses sur les ongles ?»«
Parce que je travaille dans un cirque. »
répond Juna.
« C'est une blague !»
rit-elle.
« Oui, mais quand j'avais ton âge, j'étais doué pour marcher sur des fils. Et je pensais vraiment qu'un directeur de cirque passerait devant chez moi à vélo et me découvrirait.
« Je voudrais être un clown qui effraie les enfants stupides !»
déclare-t-elle. Manvir entre et pose un plat avec des gâteaux sur la table basse. Greta et Peter le suivent avec le lait et le sucre.
« Je vous présente ma fille, Miranda. »«
Bonjour, »
dit Greta.
« Bonjour. »
Et voici Greta, Peter et Juna.
« D'accord, »
acquiesce la petite.
« Va dans ta chambre maintenant. »«
Je peux prendre un gâteau ?»«
Quand tu auras fini de t'entraîner, »
répond Manvir.
« J'ai fini. »«
Ce n'est pas ce que tu as dit. Tu as oublié la pause. »«
Non. » »«
Et tu n'as pas travaillé ton archer. »
Le visage de la petite fille s'assombrit. Elle pose avec précaution le violon sur la table et va se poster dans un coin, dos aux autres.
Juna étouffe un rire lorsqu'il croise le regard de Greta.
« On commence ?» propose Manvir. Juna détaille à voix basse ses observations dans le salon de massage et l'interrogatoire du témoin. Après un instant, Manvir soupire et se lève de son fauteuil. Il s'approche de Miranda, s'agenouille derrière elle et lui chuchote des excuses.
« Prends un gâteau, »
dit-il.
« Non !»
Tu pourras continuer à t'entraîner demain. »
Elle se retourne et le serre fort dans ses bras. Elle se dirige ensuite vers la table, prend le violon et un gâteau, puis disparaît sans un regard pour les convives.
Manvir se rassied et avale une gorgée de thé, tandis que Greta complète les observations de Juna avec les premières constatations des techniciens.
Est-ce que l'un d'entre vous pense vraiment que Saga est une tueuse en série ?
Interroge Juna.
Je veux dire, elle ne suit pas toujours les règles. Elle se met vite en colère, mais...
Je sais,
murmure Peter.
Ne soyons pas naïfs, c'est tout ce que je dis,
répond Manvir.
Il n'est pas rare que des policiers passent de l'autre côté. Ils ont des contacts, ont vu l'argent circuler, ils ont réalisé à quel point le système est injuste.
Là, il ne s'agit pas d'argent, intervient Greta.
Ceux qui changent de camp sont les déçus, les traumatisés, ceux qui n'arrivent plus à sortir de l'obscurité, ceux qui savent combien il serait facile de...
D'accord, mais là on parle de Saga.
Les interrompt Juna.
Elle a un mobile pour tous les meurtres.
Un mobile ?
Rétorque Juna.
Quel mobile ?
Tu penses à la vengeance ?
Demande Greta. Manvir pose sa tasse, enlève quelques miettes de gâteau de ses doigts. Et regarde Juna.
Je pense que Saga a recruté Mara Makarov pour commettre ses meurtres,
explique-t-il. Mara est psychiquement malade. Elle est facile à contrôler. Saga est pleine de colère. Elle a les connaissances, elle joue avec la police, nettoie les scènes de crime et s'assure à chaque fois d'avoir des alibis parfaits.
Quelques notes de violon résonnent à travers les murs de la maison.
Mais qu'avons-nous concrètement ?
Interroge Peter.
L'empreinte ensanglantée sur le mur du salon de massage correspond à la chaussure de Saga,
affirme Manvir.
Elle continue à travailler en tant qu'officier de police. Elle a été plus rapide que nous et est arrivée avant nous sur les lieux,
argumente Juna.
Si c'est le cas, pourquoi a-t-elle nettoyé ses empreintes ? Parce que tu la soupçonnes, elle a menacé un homme.
Et a prétendu avoir tué Stéphane Broman.
L'interrompt-il.
Ça ressemble bien à Saga, mais je pense que tu n'as pas à la défendre.
Le coupe Manvir.
Je pense qu'elle était juste en colère et qu'elle a voulu lui faire peur.
Poursuit Juna.
Je suis d'accord.
intervient Greta.
Ces empreintes ont aussi été retrouvées à la station métro de Kumling.
Insiste Manvir.
J'étais là-bas avec elle.
Tu l'as vu toucher le support mural d'un extincteur ?
Manvir,
répond Juna.
Je comprends ta perception de la situation, mais ça ne veut rien dire. On connaît tous Saga.
Ce n'est pas tout. Elle a accusé Werner d'être responsable de ce qui lui est arrivé. Elle est entrée en conflit avec le prêtre et a adressé une lettre de menace à l'archevêché. Elle est arrivée en retard à l'enterrement de Margot de façon démonstrative et en basket.
Elle a... On n'a pas le temps pour... Juna !
L'arrête Manvir. On a reçu les résultats d'analyse des échantillons prélevés dans l'église Bethelkirchen, où Francesca Beckmann a été assassinée. Je suis désolé de devoir dire ça, mais l'ADN correspond à 100% à celui de Saga.
Aïe,
murmure Greta.
Elle n'avait aucune raison d'aller dans cette église,
insiste Manvir.
Non,
murmure Juna. On va lancer un avis de recherche. Saga Bauer est dorénavant considérée comme la principale suspecte.